est l'heure de retrouver l'histoire des féministes par Jacqueline Engrave. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end de Pâques. Alors, nous sommes toujours dans la lutte que les féministes ont menée pour les droits civiques dans la première vague du féminisme. Alors, nous avons vu le mois dernier l'alliance qui s'est formée à la fin du 19e siècle entre les féministes et la République, cette troisième république universaliste attachée à former des femmes éducatrices. L'enseignement secondaire féminin compte en 1900 29 lycées et 41 collèges de jeunes filles, mais faute d'être sanctionnées par un diplôme, ces études secondaires ne donnent pas accès à l'université. Et le code civil reste inchangé, sauf la restauration du divorce en 1884. Marguerite Durand a fondé en 1897, fin 19e, le journal féministe La Fronde, un journal entièrement rédigé et fabriqué, techniquement même, par des femmes. De nombreuses féministes connues y écriront des articles, Alexandra Davitnel, Madeleine Pelletier, Hubertine Auclert, Séverine, entre autres. La loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, provoque une réaction des femmes bourgeoises attachées à la religion. Ces femmes créent donc la Ligue des femmes françaises, présidée par une comtesse. Son but est de soulever les catholiques par un appel à la France chrétienne. Mais au sein de cette organisation, une scission a lieu entraînant la création d'une autre ligue chrétienne, la Ligue patriotique des Françaises, revendiquant un catholicisme social présidé par une baronne puis une vicomtesse. Le discours de ces ligues est conservateur, mais leur pratique est novatrice. Abandonnant la posture classique de dame patronesse, elles sont militantes actives. Elles publient des articles et appellent dans la presse religieuse des tracts, des affiches, des chansons, des croisades de prière, font des congrès, etc. Le succès est au rendez-vous. En 1913, la Ligue patriotique a 500 000 membres et la Ligue des femmes françaises 300 000. On en rêverait aujourd'hui. Les effectifs féministes de gauche, profondément laïques, sont bien moindres, mais le mouvement se développe. La Ligue française pour le droit des femmes, LFDF, fondée par Léon Richer en 1882, demeure un groupe majeur du camp radical. Le Conseil national des femmes françaises, réformiste, porte un programme commun aux ligues qui, dès 1906, comprend tous les droits civils et politiques. Et à partir de 1909, la priorité est donnée aux droits civiques, c'est-à-dire aux droits de vote, par toutes les ligues que je viens de nommer. On n'est pas obligé de se souvenir de toutes. On a donc obtenu, en 1907, le droit pour la femme mariée de disposer librement de son salaire et, en 1912, la possibilité d'intenter une action en recherche de paternité. L'enseignement secondaire, malgré ses insuffisances, a soulevé chez les femmes, conscientes de leurs capacités, des ambitions professionnelles qui aboutissent grâce à leurs mérites, leurs talents et leur persévérance. Par exemple, Maria Vérone est la première avocate à plaider aux assises en 1908. Mais toutes ces pionnières se heurtent aux embûches placées sous leurs pas par les antiféministes, se heurtent aux résistances du milieu universitaire et scientifique, telles Marie Curie en sciences, Jeanne Chauvin en droit. Bref, elle se heurte à un regain d'antiféminisme, retour de bâton contre l'intrusion des femmes dans les bastions professionnels masculins. Parmi les femmes non privilégiées, moins instruites, les femmes du peuple, paysannes ou ouvrières, des féministes se battent aussi. En 1918, à la fin de la guerre, les paysannes qui ont remplacé les hommes sont 850 000 à diriger une exploitation agricole. Elles sont invisibles et moins identifiables, car ne sachant bien souvent ni lire ni écrire, elles n'ont pas laissé de traces par elles-mêmes, si ce n'est à travers des intermédiaires auxquels elles livrent le récit de leur vie. De plus, pour les ouvrières, leur lutte se confond avec celle des ouvriers pour obtenir augmentation de salaire et meilleures conditions de travail. La majorité des hommes ouvriers, cependant, continuent de désapprouver le travail des femmes, surtout de la leur, et le Code civil impose aux épouses d'avoir l'autorisation du mari pour appartenir à une association ou un syndicat. Mais ces oppositions ne font que renforcer la solidarité féminine, la lutte contre les inégalités de sexe, en premier lieu la dénonciation du salaire dit de complément, inférieur de moitié à celui des hommes. Pourquoi ? Comment se justifiait cette infériorité ? On considérait que les besoins alimentaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes. Elles avaient sans doute un estomac plus petit. Et qu'elles savaient repriser leurs vêtements. La notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes n'a pas disparu, car elle est encore considérée dans certains couples comme un salaire d'appoint. Elles luttent, ces femmes, contre leurs conditions de travail misérables, dont le harcèlement sexuel de la part des contremaîtres chargés de les surveiller. Contre cette violence économique et sexiste de domination masculine subie quotidiennement, les ouvrières se révoltent. Des grèves éclatent, telles celles de l'usine de porcelaine Havilland à Limoges en 1905. Nous avons vu le 6 septembre 2022, bientôt 2 ans, Odile, dans le portrait de Lucie Baud, B-A-U-D, 1870-1913, ouvrière d'une usine textile à Vizille, dans la région de Grenoble, qu'elle a menée en tant que syndicaliste, une des premières femmes syndicalistes françaises, de 1902 à 1906, de dures grèves violemment réprimées, dans les usines textiles où les ouvrières subissent des cadences infernales toute la journée dès l'âge de 12 ans. Elles sont surexploitées à la fois en tant qu'ouvrières et en tant que femmes. Qu'on songe à l'exploitation qui sévit dans ces bagnes, explique Lucie dans un texte intitulé « Les tisseuses de soie de la région de Vizille » en 1908. Un résultat obtenu, c'est que en 1907, les femmes votent au prud'homme et les épouses touchent directement leur salaire. Un autre exemple d'une figure féministe radicale méconnue, première interne des asiles d'aliénés, comme on disait à l'époque, Madeleine Pelletier, P-E-L-E-T-I-E-R, 1874-1939. D'origine modeste, fille d'un ancien cocher de fiacre, elle est une excellente élève, très intelligente, mais elle a dû, elle aussi, quitter l'école à 12 ans. Elle s'instruit en lisant passionnément et se rapproche, dès ses 15 ans, des cercles anarchistes de son quartier. En 1890, elle fonde le groupe La Femme Libre, milite pour le suffrage féminin, la création de syndicats de travailleuses et l'abrogation de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes. Elle-même adopte le costume masculin, chapeau melon, pantalon et veste. En autodidacte, elle décroche le baccalauréat de philosophie en 1897 avec la mention « très bien », puis entreprend des études de médecine et se passionne pour la psychiatrie. C'était une femme exceptionnelle. Il lui a fallu pour cela s'initier seule au grec ancien, au latin, à l'anglais, aux mathématiques et à la philosophie. En 1902, elle soutient une thèse remarquée sur la débilité mentale, mais se voit refuser l'accès au concours de l'internat parce que, femme, elle n'a pas ses droits civiques et politiques. Avec le soutien du journal La Fronde, elle obtient l'autorisation de passer le concours de l'internat des asiles et commence son internat en 1904. En 1906, elle échoue au concours qui donne accès au poste de médecin adjoint des asiles d'aliénés. Elle ouvre alors un cabinet privé dans un quartier pauvre de Paris. À cette époque de sa vie, elle initie des actions d'éclat en faveur du droit de vote des femmes en digne successeur d'Hubertine Auclair. Collage d'affiches, manifestations, bris des vitres d'un bureau de vote, etc. Persuadée que les revendications féministes ne pourront aboutir qu'avec l'aide des partis ouvriers, elle adhère à la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. et rejoint son aile la plus radicale. En décembre 1907, avec ses amies Caroline Kaufmann et Arialis, A-R-I-A-L-Y, elle participe à la gigantesque manifestation organisée par celles que l'on appelle les suffragettes à Londres. Arialis, en fait, c'est le pseudonyme de Joséphine Gondon, militante féministe radicale, qui revendiquait en outre le droit des femmes à l'autodéfense contre les agressions masculines et qui s'est suicidée en 1934. Déçue par l'indifférence du Parti socialiste à l'égard du vote des femmes, Madeleine se tourne vers des journaux qui édite des brochures sur l'émancipation sexuelle des femmes, la famille, l'avortement et la contraception, sujet qui l'intéresse en tant que médecin, femme. En 1937, elle est victime d'une crise qui la laisse à demi hémiplégique et l'empêche de travailler. Mais militante en faveur de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse interdite par la loi de 1920, elle est accusée en avril 1939 d'avoir avorté une préadolescente de 13 ans, enceinte de son frère, son agresseur sexuel familial incestueux. Déclarée irresponsable, elle est aussitôt internée à l'asile d'aliénés de Perret-Vaucluse, dans l'Essonne, région Île-de-France, avant même la tenue du procès. Et voilà comment, en France, on traite les femmes qui se distinguent du point de vue intellectuel. Arialis s'est suicidée et moi je suis dans un asile d'aliénés, écrit-elle à son amie Hélène Brion, peu avant de mourir des suites d'un accident vasculaire cérébral en 1939, dans une solitude absolue, laissant une œuvre considérable derrière elle et surtout des textes consacrés à l'émancipation des femmes et à l'éducation des filles. Morte à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, elle a vécu la première, la Grande Guerre de 1914-1918, 4 ans de guerre qui prirent la proportion d'un cataclysme universel, provoquèrent un véritable traumatisme national. Et c'est en France, pas en Angleterre, pas en Allemagne, que se joua la partie des armes. À l'armistice signé le 11 novembre 1918, l'Alsace-Lorraine redevient française, mais la victoire coûte très cher à la France. De tous les belligérants, c'est elle qui a subi les plus lourdes pertes en hommes et en capitaux. 1 400 000 morts militaires, dont 66 000 venus des colonies. 3 millions de blessés, dont 740 000 mutilés, plusieurs centaines de milliers de morts et de mortes civiles, une hécatombe. La proportion des pertes était de 1 pour 20 habitants, habitantes en France. En comparaison, elle est en Allemagne de 1 pour 34 et chez les Britanniques de 1 pour 63. Les dommages subis par l'invasion du territoire de la France étaient presque inestimables, parfois irréparables. Des villages entiers avaient disparu sans laisser de traces. Des villes comme Reims, Arras, Verdun n'étaient plus que des monceaux de ruines. Usines vidées, mines du Nord détruites ou noyées, arbres rasés, routes, voies ferrées, ponts, voies navigables, terres de labour et de pâturage, bois et forêts, tout est à remettre en état. La guerre se termine par le traité de Versailles, la capitulation de l'Allemagne le 28 juin 1919. C'est à ce moment qu'est créée la Société des Nations, la SDN, l'ancêtre de l'actuelle ONU, Organisation des Nations Unies. Et pendant ce temps de guerre, quelle est l'attitude des féministes? Il s'agit de défendre le pays attaqué. L'union sacrée met en veilleuse les oppositions politiques et sociales et les féministes y participent. Elles suspendent les revendications et les journaux féministes appellent à servir la patrie, y compris la Fronde, craignant que leur pacifisme ne soit assimilé à une trahison. Il ne s'agit pas de se renier, mais de montrer à la fois la valeur du féminisme et les capacités des femmes. 8 millions d'hommes sont mobilisés à la guerre. Un surtravail des femmes est donc indispensable pour faire fonctionner le pays dans l'agriculture, comme dans les usines à fabriquer des munitions de guerre. Les féministes veulent profiter de cette expérience pour valoriser le travail de celles que l'on appelle les munitionnettes ou les remplaçantes. Elles parlent volontiers de deuxième front, de combattantes de l'arrière, de l'autre front. Au champ ou dans les usines, les femmes prouvent qu'elles sont capables de remplacer les hommes dans tous les domaines. Certaines restent pacifistes, opposées à la guerre. C'est le cas de l'institutrice Hélène Brion, B-R-I-O-N, l'amie de Madeleine Pelletier. Accusée d'avoir diffusé des brochures pacifistes, Hélène Brion, dirigeante syndicale de la CGT, emprisonnée en 1917, s'explique à son procès de 1918 dans un discours brillant en faveur d'un féminisme lié au pacifisme. Outre son défaitisme, la presse lui reproche, à elle aussi, de ne pas respecter la loi interdisant le port de pantalon aux femmes et d'être néo-malthusienne. Ça veut dire d'être pour le contrôle des naissances, pour la limitation des grossesses. Voici un extrait de son discours. « Je comparais ici comme inculpée d'un délit politique. Or, je suis dépouillée de tout droit politique. Parce que femme, je suis classée par les lois de mon pays, inférieure de beaucoup à tous les hommes de France et des colonies. La loi devrait être logique et ignorer mon existence lorsqu'il s'agit de sanctions, autant qu'elle l'ignore lorsqu'il s'agit de droit. Je suis ennemie de la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale. Le féminisme ne peut triompher que par la force morale et la valeur intellectuelle. » Hélène Brion est membre de la SFIO, ce parti politique au sein duquel elle veut faire entendre la cause des femmes. Mais c'est difficile. La brochure « La voix féministe » soutient avec pertinence que le socialisme et le syndicalisme, je cite, « ne sauraient suffire à la libération des femmes, plus exploitées encore par la collectivité masculine en tant que femme qu'elles ne le sont par le capital en tant que productrice. » Alors nous arrivons peut-être à la pause musicale et comme nous sommes au printemps, eh bien nous écoutons un extrait du printemps de Vivaldi.
Voilà, après cette page du printemps de Vivaldi.
Donc, je reprends. Les hommes, les soldats survivants de la guerre reviennent traumatisés à vie, blessés, défigurés, mutilés. Certains en veulent aux femmes d'avoir eu le privilège de rester à l'arrière du front. Ils veulent retrouver le monde d'avant, la paix, et les femmes d'avant, les femmes d'intérieur. Le renvoi des femmes au foyer est rapide. Dès l'armistice signé, 500 000 des 600 000 ouvrières de l'armement quittent leur poste alors que les travailleurs ne sont pas encore tous de retour. Les femmes sont souvent désormais des veuves de guerre. On leur attribue une pension, c'est une façon de leur reconnaître une identité sociale. Elles sont veuves d'un soldat, veuves de guerre. Mais elles sont très vite amenées à leur rôle principal sur Terre, être non des êtres humains, mais des utérus productifs pour repeupler la France, la mission nationale qui leur est imposée. La maternité devient un devoir et une fonction sociale. L'État, en proie à une véritable obsession démographique liée à la saignée démographique due au conflit, renoue avec la politique familialiste amorcée en 1913 et défendue à partir de 1919 par un congrès de la natalité. Face à la dépopulation, il faut durcir la législation contre tout contrôle des naissances. La loi du 13 juillet 1920, loi déclarée scélérate par les féministes a posteriori, interdit donc l'avortement et toute publicité des moyens contraceptifs. Cette loi qui, tout au long du XXe siècle, allait causer bien des drames chez les femmes, nous le verrons plus tard, n'est condamnée chez les féministes que par une minorité d'adeptes du contrôle des naissances, les néo-malthusiennes. Mais beaucoup de féministes sont, elles aussi, familialistes et pro-natalistes. La doctoresse Madeleine Pelletier, favorable à l'éducation sexuelle, pratique, on l'a vu, des avortements clandestins dans son cabinet. Très en avance sur son temps, elle défend la liberté des femmes à disposer de leur corps. « La femme a le droit de se faire avorter », écrit-elle dans le journal La Suffragiste en 1911, « parce qu'elle seule est propriétaire de son corps ». Les partisans de la repopulation sont le plus souvent des hommes d'opinion rétrograde. Ils sont pour l'autorité, pour la subordination des classes pauvres aux classes riches, et ils croient que le meilleur moyen de maintenir la hiérarchie sociale, c'est une « bonne guerre » de temps à autre. Elle a mis entre guillemets « bonne guerre ». Quel que soit le pays, l'homme qui a pour sa femme d'autres sentiments qu'un désir brutal se refuse à l'accabler de grossesse. En voulant, dans un intérêt national, mettre un frein aux libertés individuelles, on fait toujours plus de mal que de bien. Avec leur publication, les néo-malthusiennes font scandale, se mettent en danger, et d'ailleurs elles sont poursuivies par la justice. Mais la sexualité refait ainsi irruption dans le débat féministe et sera le cheval de bataille de la deuxième vague que nous présenterons dans les mois à venir. Voici un autre extrait d'un article d'une institutrice, Henriette Alquier, A-L-Q-U-I-E-R, publié dans la revue « L'école émancipée » quelques années plus tard. « Les procédés anticonceptionnels ne lèsent personne. Ils sont inoffensifs quant à la vie physiologique de l'homme ou de la femme. Et il serait puéril de prétendre que détruire un spermatozoïde, une cellule, c'est attenter à la vie humaine. » Le militantisme suffragiste ne reprend vraiment qu'en 1917 et le travail parlementaire sur le vote des femmes début 1918. Après la guerre, dans de nombreux pays, les femmes ont obtenu le droit de vote. En Russie, au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Espagne, en Turquie. Mais les Françaises, elles, ne votent toujours pas à cause de l'opposition systématique des sénateurs conservateurs et misogynes. L'Assemblée nationale se prononce favorablement en 1919, mais le Sénat repousse la loi en 1922. Il va bloquer 5 fois le texte durant l'entre-deux-guerres, 1922, 1925, 1932, 1935, 1936. Cette hostilité provoque chez les suffragistes un regain d'offensive et d'inventivité pour se faire entendre, une stratégie qu'Hubertine Auclert aurait approuvée, portée par Maria Vérone, avocate déjà citée, et par la journaliste Louise Weiss, W-E-I-2-S, 1893-1983, une Alsacienne protestante convaincue que les féministes doivent descendre dans la rue, qu'il faut des actes spectaculaires. À cette époque déjà, la seule parole ne suffit pas pour être entendue de l'opinion publique et des gouvernants. Elle lance le 6 octobre 1934 le mouvement « La femme nouvelle ». Modernistes, ces militantes, quoique peu nombreuses, multiplient les moyens pour faire parler du droit de vote. Meeting aérien à Bordeaux avec de célèbres aviatrices de l'époque, femmes enchaînées dans un lieu public. Elles perturbent la finale de la Coupe de France de foot en 1936 en lâchant des ballons rouges lestés de tract dans le stade. Je n'ose imaginer le scandale si de nos jours des féministes interrompaient une finale de foot masculin, remarque Titiou Lecoq dans son livre « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec elle, bien sûr. Louise Weiss sait manier le verbe et les injonctions, attirer les médias et se mettre en scène. Mais pas plus que les autres suffragistes, cependant, elle n'obtient gain de cause auprès des sénateurs. La paix entre la France et l'Allemagne ne dure que 20 ans. On appelle cette période l'entre-deux-guerres, 1918-1939. Une nouvelle génération de féministes apparaît, un essor du féminisme, mais affaibli pourtant par sa dispersion en 140 associations et sans véritable rapprochement avec des syndicalistes, ceux de la CGT notamment, ou des partis politiques qui, eux, considèrent toujours la lutte pour les droits des femmes comme secondaire. Dans cette nébuleuse féministe, selon l'expression de Christine Barr, historienne, on distingue 3 orientations. Premièrement, la tendance radicale, minoritaire, qui regroupe des libres penseuses et des anticléricales telles Madeleine Pelletier, qui prône un féminisme intégral sans concession. Deuxièmement, la tendance modérée, proche des partis de droite, dominés par les catholiques au sein de l'Union nationale pour le vote des femmes. Le suffragisme est pour cette tendance un moyen de moraliser la société. Elle se considère comme féministe que dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir ses devoirs de mère et d'épouse. Et troisièmement, le réformisme, celui des grandes associations comme le Conseil national des femmes françaises et l'Union française pour le suffrage des femmes, dont la présidente Cécile Brunschvicg, alors là je suis obligée d'épeler, B-R-U-N-S-C-H-V-I-C-G, est la figure incontournable. Et la Ligue française du droit des femmes avec Maria Vérone comme présidente. Cette tendance défend l'égalité des sexes, mais dans la différence, faisant valoir les aptitudes spécifiques des femmes pour lutter efficacement contre les fléaux sociaux tels l'alcoolisme ou la dénatalité. En rupture avec l'universalisme des droits humains, elle met l'accent sur la fonction maternelle, mère et éducatrice, les femmes devraient avoir le droit de vote à ce titre. L'entre-deux-guerres, courte période de paix, ne fut pas un long fleuve tranquille pour les Françaises et les Français. Cette période fut émaillée de plusieurs crises, crise économique, crise politique, crise sociale. À partir de 1930, la France fut touchée à son tour par la crise économique qui avait commencé aux États-Unis l'année précédente, doublée d'une crise politique en raison d'une série de scandales financiers décrédibilisant le régime parlementaire. La France s'est divisée en 2 camps, les fascistes, c'est-à-dire les adeptes d'une autorité dictatoriale et violente, et les antifascistes. En réaction, les partis de gauche se regroupèrent en une vaste coalition appelée le Front populaire, qui sortit largement victorieux des élections de 1936. Une victoire électorale porteuse d'espoir d'amélioration du sort de la population. On retient essentiellement la création des congés payés. Léon Blum devint président du Conseil et constitua un gouvernement composé de socialistes et de radicaux avec le soutien des communistes le 4 juin 1936. Alors que la crise économique, le chômage, touche de plein fouet les travailleuses, les premières à être licenciées pour laisser la place aux hommes. Les féministes espèrent beaucoup de Léon Blum parce qu'il est partisan du vote des femmes. Le député communiste Jacques Duclos n'a-t-il pas déclaré le 1er juin « Il appartient au Front populaire de réaliser l'émancipation des femmes ». C'est ainsi que Léon Blum nomme trois femmes à des sous-secrétariats d'État. Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, à la recherche scientifique. Suzanne Lacor, à la protection de l'enfance. Cécile Brunschvicg, à l'éducation nationale. De fait, l'incohérence démocratique de ces nominations saute aux yeux. Le gouvernement compte trois femmes en son sein, trois femmes qui ne sont ni électrices ni éligibles, comme toutes les Françaises. On les appellerait aujourd'hui des femmes alibi. Irène Joliot-Curie se retire dès septembre 1936. Lacor n'est pas à proprement parler féministe. Brunschvicg est résolument féministe, certes, mais ne bataille pas pour le droit de vote, son parti y étant opposé. Léon Blum lui-même y renonce. Il applique le programme du Front populaire et le suffrage féminin ne figure pas dans ce programme. La France, qui fut la première nation à proclamer les droits de l'homme, sera-t-elle la dernière à proclamer les droits de la femme ? Titre le journal La Française le 12 avril 1936. Et c'est la fin de cet épisode. La suite, le mois prochain, c'est-à-dire le 7 mai, où nous clôturerons cette deuxième partie de notre histoire des féministes, la première vague.
Merci Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires, je le rappelle, pour ces émissions fort intéressantes que l'on retrouve en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. Bonne journée à toutes et à tous.
Bonne journée.
Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.